Chapitre 18. Dans lequel on verra que les Galiens se préparent à contempler d'un peu haut l'ensemble de leur astéroïde. Quelles pouvaient être les conséquences de ce grave événement au point de vue de Galia? Le capitaine Servadac et ses compagnons n'osaient encore répondre à cette question. Le soleil revint promptement sur l'horizon, et d'autant plus promptement que le dédoublement avait tout d'abord produit ce résultat. Si le sens du mouvement de rotation de Galia n'était pas modifié, si la comète se mouvait toujours sur son axe de l'Orient à l'Occident, la durée de cette rotation diurne avait diminué de moitié. L'intervalle entre deux levées du soleil n'était plus que de 6 heures au lieu de 12. 6 heures après avoir paru sur l'horizon, l'astre radieux se couchait sur l'horizon opposé. « Mordieu !» avait dit le capitaine Servadac, « cela nous fait une année de 2800 jours !»« Il n'y aura jamais assez de saints pour ce calendrier-là » avait répondu Ben Zoof. Et de fait, si Palmyra Rosette voulait réapproprier son calendrier à la nouvelle durée des jours galiens, il en viendrait à parler du 238 juin ou du 325 décembre. Quant à ce morceau de Galia qui emportait les Anglais et Gibraltar, il fut manifestement visible qu'il ne gravitait pas autour de la comète. Il s'en éloignait au contraire. Mais avait-il entraîné avec lui une portion quelconque de la mer et de l'atmosphère galienne? Se trouvait-il dans des conditions d'habitabilité suffisantes? Et en dernier compte, reviendrait-il jamais à la Terre? On le saurait plus tard. Quelles étaient les conséquences du dédoublement sur la marche de Galia? Voilà ce que le comte Timachef, le capitaine Servadac et le lieutenant Procope s'étaient tout d'abord demandé. Ils avaient d'abord senti un accroissement de leur force musculaire et constaté une nouvelle diminution de la pesanteur. La masse de Galia ayant diminué dans une proportion notable, sa vitesse n'en serait-elle pas modifiée? Et ne pouvait-on craindre qu'un retard ou une avance dans sa révolution ne lui fisse manquer la Terre? C'eût été là un irréparable malheur. Mais la vitesse de Galia avait-elle varié si peu que ce fût? Le lieutenant Procope ne le pensait pas. Toutefois, il n'osait se prononcer, n'ayant pas des connaissances suffisantes en ces matières. Seul Palmyra Rosette pouvait répondre à cette question. Il fallait donc, d'une manière ou d'une autre, par la persuasion ou par la violence, l'obliger à parler et à dire en même temps quelle était l'heure précise à laquelle la rencontre aurait lieu. Tout d'abord, pendant les jours suivants, on put constater que le professeur était d'une humeur massacrante. Était-ce la perte de sa fameuse lunette, ou ne pouvait-on en conclure ceci? C'est que le dédoublement n'avait point altéré la vitesse de Galia, et que, conséquemment, elle rencontrerait la Terre au moment précis. En effet, si par suite du dédoublement, la comète eût avancé ou retardé, si le retour eût été compromis, la satisfaction de Palmyra Rosette aurait été telle qu'il n'eût pu la contenir. Puisque sa joie ne débordait pas, c'est qu'il n'avait pas sujet d'être joyeux, au moins de ce chef. Le capitaine Servadac et ses compagnons tablèrent donc sur cette remarque, mais cela ne suffisait pas. Il fallait arracher son secret à ce hérisson. Enfin, le capitaine Servadac y parvint. Voici dans quelles circonstances. C'était le 18 décembre. Palmyra Rosette, exaspéré, venait de soutenir une violente discussion avec Ben Zoof. Celui-ci avait insulté le professeur en la personne de sa comète. « Un bel astre, ma foi, qui se disloquait comme un joujou d'enfant, qui crevait comme une outre, qui se fendait comme une noix sèche. Autant vivre sur un obus, sur une bombe dont la mèche est allumée, etc. » Enfin, on imagine aisément ce que Ben Zoof avait pu broder sur ce thème. Les deux interlocuteurs s'étaient réciproquement jetés, l'un Galia, l'autre Montmartre à la tête. Le hasard fit que le capitaine Servadac intervint au plus chaud de la discussion. fût-ce une inspiration d'en haut. Mais il se dit que, puisque la douceur ne réussissait pas avec Palmyrin Rosette, peut-être la violence agirait-elle plus efficacement. Et il prit le parti de Benzouf. Colère du professeur, qui se traduisit instantanément par les paroles les plus aigres. Colère, mais colère feinte, du capitaine Servadac, qui finit par dire « Monsieur le professeur, vous avez une liberté de langage qui ne me convient pas et que je suis résolu à ne plus supporter. Vous ne vous souvenez pas assez que vous parlez au gouverneur général de Gallia. » « Et vous, riposta l'irascible astronome, vous oubliez beaucoup trop que vous répondez à son propriétaire. » « Il n'importe, monsieur. Vos droits de propriété sont après tout très contestables. »« Contestables. Et puisqu'il nous est impossible maintenant de revenir à la Terre, vous vous conformerez désormais aux lois qui régissent Gallia. » « Ah, vraiment, répondit Palmyrin Rosette, je devrais me soumettre à l'avenir. » « Parfaitement. Maintenant surtout que Gallia ne doit pas revenir à la Terre. » « Et que par conséquent, nous sommes destinés à y vivre éternellement, » répondit le capitaine Servadac. « Et pourquoi Gallia ne doit-elle pas revenir à la Terre ?» demanda le professeur avec l'accent du plus profond mépris. « Parce que depuis qu'elle s'est dédoublée, » répondit le capitaine Servadac, « sa masse a diminué. » et que, par conséquent, un changement a dû se produire dans sa vitesse. « Et qui a dit cela ?»«
Moi, tout le monde. »«
Eh bien, capitaine Servadac, tout le monde et vous, vous êtes des... Monsieur Rosette, des ignorants, des ânes battés, qui ne connaissaient rien à la mécanique céleste. Prenez garde, ni à la physique la plus élémentaire.
Monsieur... »
« Ah, mauvais élève !» reprit le professeur, dont la colère atteignait au paroxysme. « Je n'ai point oublié qu'autrefois vous déshonoriez ma classe. »«
C'en est trop !»«
Que vous étiez la honte de Charlemagne !»« Vous vous tairez, sinon ?»« Non, je ne me tairai pas, et vous m'écouterez, tout capitaine que vous êtes. »« Vraiment, les beaux physiciens !»« Parce que la masse de Gallia a diminué, » il se figure que cela a pu modifier sa vitesse tangentielle. Comme si cette vitesse ne dépendait pas uniquement de sa vitesse primordiale combinée avec l'attraction solaire. Comme si les perturbations ne s'obtenaient pas, sans compte un compte, des masses des astres troublés. Est-ce qu'on connaît la masse des comètes? Non. Est-ce qu'on calcule leurs perturbations? Oui. Ah, vous me faites pitié! Le professeur s'emportait. Benzouf, prenant la colère du capitaine Servadac au sérieux, lui dit « Voulez-vous que je le casse en deux, mon capitaine, et que je le dédouble comme sa fichue comète ?»« Eh bien, touchez-moi seulement !» s'écria Palmyrin Rosette en se redressant de toute sa petite taille. « Monsieur, répliqua vivement le capitaine Servadac, je saurai vous mettre à la raison. »« Et moi, vous traduire pour menace et voix de fée devant les tribunaux compétents. »« Les tribunaux de Gallia ?» « Non, monsieur le capitaine, mais ceux de la Terre. »«
Allons donc, la Terre est loin, » repartit le capitaine Servadac.
« Si loin qu'elle soit !» s'écria Palmyrin Rosette, emporté au-delà de toute mesure. « Nous n'en couperons pas moins son orbite au nœud ascendant dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, et nous y arriverons à 2h47min 37s et 6 dixièmes du matin. »
« Mon cher professeur, répondit le capitaine Servadac avec un salut gracieux, je ne vous en demandais pas davantage. » Et il quitta Palmyrin Rosette, absolument interloqué, auquel Benzouf crut devoir adresser un salut non moins gracieux que celui de son capitaine. Hector Servadac et ses compagnons savaient enfin ce qu'ils avaient tant intérêt à savoir. À 2h47min 35s et 6 dixièmes du matin, s'effectuerait la rencontre. Donc, encore 15 jours terrestres, soit 32 jours galliens de l'ancien calendrier, soit 64 du nouveau.
Cependant, les préparatifs du départ s'accomplissaient avec une ardeur sans pareille. C'était pour tous une hâte d'avoir quitté Gallia. La montgolfière du lieutenant Procope semblait être un moyen assuré de rallier le globe terrestre. Se glisser avec l'atmosphère gallienne dans l'atmosphère terrestre, cela paraissait être la chose la plus facile du monde. On oubliait les mille dangers de cette situation sans précédent dans les voyages aérostatiques. Rien n'était plus naturel. Et pourtant, le lieutenant Procope répétait avec raison que la montgolfière, brusquement arrêtée dans son mouvement de translation, serait brûlée avec tout ce qu'elle porterait, à moins d'un miracle. Le capitaine Servadac se montrait, à dessein, enthousiasmé. Quant à Ben Zoof, il avait toujours voulu faire une promenade en ballon, il était donc au comble de ses voeux. Le comte Timascheff, plus froid, et le lieutenant Procope, plus réservé, envisageaient seuls tout ce que cette tentative offrait de danger, mais ils étaient prêts à tout. À cette époque, la mer, délivrée de ses glaçons, était redevenue praticable. La chaloupe à vapeur fut mise en état, et avec ce qui restait de charbon, on fit plusieurs voyages à l'île Gourbie. Le capitaine Servadac, Procope et quelques Russes furent du premier voyage. Ils retrouvèrent l'île, le Gourbie, le poste, respectés par ce long hiver. Des ruisseaux coulaient à la surface du sol. Les oiseaux, ayant quitté la terre chaude à tire-d'aile, étaient revenus à ce bout de terre fertile, où ils revoyaient la verdure des prairies et des arbres. Des plantes nouvelles apparaissaient sous l'influence de cette chaleur équatoriale des jours de 3 heures. Le soleil leur versait ses rayons perpendiculaires avec une extraordinaire intensité. C'était l'été brûlant, succédant presque inopinément à l'hiver. Ce fut à l'île Gourbie que l'on fit la récolte de l'herbe et de la paille qui devait servir au gonflement de la montgolfière. Si cet énorme appareil n'eût pas été si encombrant, peut-être l'aurait-on transporté par mer à l'île Gourbie, mais il parut préférable de s'enlever de la terre chaude et d'y apporter le combustible destiné à opérer la raréfaction de l'air. Déjà, pour les besoins journaliers, on brûlait le bois provenant des débris des deux navires. Lorsqu'il fut question d'utiliser ainsi les bordages de la tartane, Isaac Hakkabut voulut s'y opposer. Mais Ben Zoof lui fit entendre qu'on lui ferait payer 50 000 francs sa place dans la nacelle s'il s'avisait seulement d'ouvrir la bouche. Isaac Hakkabut soupira et se tut. Le 25 décembre arriva. Tous les préparatifs de départ étaient terminés. On fêta la Noël comme on l'avait fêté un an auparavant, mais avec un plus vif sentiment religieux. Quant au prochain de l'an, c'était sur terre que tous ces braves gens comptaient bien le célébrer. Et Ben Zoof alla jusqu'à promettre de belles étrennes au jeune Pablo et à la petite fille. « Voyez-vous, leur dit-il, c'est comme si vous les teniez. » Bien que cela soit peut-être difficile à admettre, à mesure que le moment suprême approchait, le capitaine Servadac et le comte Timascheff pensaient à tout autre chose qu'au danger de l'atterrissage. La froideur qu'ils se témoignaient n'était point feinte. Ces 2 années qu'ils venaient de passer ensemble loin de la terre, c'était pour eux comme un rêve oublié, et ils allaient se retrouver sur le terrain de la réalité en face l'un de l'autre. Une image charmante se plaçait entre eux et les empêchait de se voir comme autrefois. Et c'est alors que vint au capitaine Servadac la pensée d'achever ce fameux rondeau, dont le dernier quatrain était resté inachevé. Quelques vers encore, et ce délicieux petit poème serait complet. C'était un poète que Gallia avait enlevé à la terre. Ce serait un poète qu'elle lui rendrait. Et entre-temps, le capitaine Servadac repassait toutes ces malencontreuses rimes dans sa tête. Quant aux autres habitants de la colonie, le comte Timascheff et le lieutenant Procope avaient hâte de revoir la terre. Et les Russes n'avaient qu'une pensée, suivre leur maître partout où il lui plairait de les mener. Les Espagnols, eux, s'étaient si bien trouvés sur Gallia qu'ils y auraient volontiers passé le reste de leur jour. Mais enfin, Negrete et les siens ne reverraient pas les campagnes de l'Andalousie sans quelque plaisir.
Pour Pablo et Nina, ils étaient enchantés de revenir avec tous leurs amis, mais à la condition de ne plus jamais se quitter. Restait donc un seul mécontent, le rageur Palmyrin Rosette. Il ne décollerait pas. Il jurait qu'il ne s'embarquerait pas dans la nacelle. Non, il prétendait ne pas abandonner sa comète. Il continuait jour et nuit ses observations astronomiques. Ah ! Combien sa regrettable lunette lui faisait défaut ! Voilà que Gallia allait pénétrer dans cette zone étroite des étoiles filantes. N'y avait-il pas des phénomènes à observer, quelques découvertes à faire ? Palmyrin Rosette, désespéré, employa alors un moyen héroïque en augmentant la pupille de ses yeux afin de remplacer tant soit peu la puissance optique de sa lunette. Il se soumit à l'action de la belladone, ingrédient qu'il emprunta à la pharmacie de Nina Ruche, et alors il regarda à se rendre aveugle. Mais bien qu'il eût ainsi accru l'intensité de la lumière qui se peignait sur sa rétine, il ne vit rien, il ne découvrit rien. Les derniers jours se passèrent dans une surexcitation fébrile dont personne ne fut exempt. Le lieutenant Procope surveillait les derniers détails. Les deux bas-mâts de la goélette avaient été plantés sur la grève et servaient de support à l'énorme montgolfière, non encore gonflée, mais revêtue du réseau de son filet. La nacelle était là, suffisante à contenir ses passagers. Quelques outres, attachées à ses montants, devaient lui permettre de surnager un certain temps pour le cas où la montgolfière atterrirait en mer près d'un littoral. Évidemment, si elle tombait en plein océan, elle coulerait bientôt avec tous ceux qu'elle portait, à moins que quelque navire ne se trouvât à point pour les recueillir. Les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre s'écoulèrent. Il n'y avait plus que 48 heures terrestres à passer sur Gallia. Le 31 décembre arriva. Encore 24 heures et la montgolfière, enlevée par l'air chaud raréfié dans ses flancs, planerait dans l'atmosphère gallienne. Il est vrai que cette atmosphère était moins dense que celle de la Terre, mais il faut considérer aussi que l'attraction étant moindre, l'appareil serait moins lourd à enlever. Gallia se trouvait alors à 40 millions de lieues du Soleil, distance un peu supérieure à celle qui sépare le Soleil de la Terre. Elle avançait avec une excessive vitesse vers l'orbite terrestre qu'elle allait couper à son nœud ascendant, précisément au point de l'écliptique qu'occuperait le sphéroïde. Quant à la distance qui séparait la comète de la Terre, elle n'était plus que de 2 millions de lieues. Or, les deux astres marchant l'un vers l'autre, cette distance allait être franchie à raison de 87 000 lieues à l'heure, Gallia en faisant 57 000 et la Terre 29 000 environ. Enfin, à 2 heures du matin, les Galliens se préparèrent à partir. La rencontre allait s'effectuer dans 47 minutes et 35 secondes. Par suite de la modification du mouvement de rotation de Gallia sur son axe, il faisait jour alors. Jour aussi sur ce côté du globe terrestre que la comète allait heurter. Depuis une heure, le gonflement de la montgolfière était complet. Il avait parfaitement réussi. L'énorme appareil, se balançant entre les mâts, était prêt à partir. La nacelle, accrochée au filet, n'attendait que ses passagers. Gallia n'était plus qu'à 75 000 lieues de la Terre. Isaac Hakkabut, le premier, prit place dans la nacelle. Mais à ce moment, le capitaine Servadac remarqua qu'une ceinture, énormément gonflée, ceignait la taille du Juif. « Qu'est cela ? » demanda-t-il. « Ça, monsieur le gouverneur, répondit Isaac Hakkabut, c'est ma modeste fortune que j'emporte avec moi. Et que pèse-t-elle, votre modeste fortune ? Oh, une trentaine de kilos seulement. 30 kilos, et notre montgolfière qui n'a que la force ascensionnelle suffisante pour nous enlever. Débarrassez-vous, maître Isaac, de cet inutile fardeau. Mais, monsieur le gouverneur... Inutile, vous dis-je, puisque nous ne pouvons surcharger ainsi la nacelle.
Dieu de l'univers, s'écria Isaac, toute ma fortune, tout mon bien si péniblement amassé.
Eh, maître Isaac, vous savez bien que votre or n'aura plus aucune valeur sur la terre, puisque Galia vaut 246 sextillons.
Mais, monseigneur, par pitié.
Allons, Matathias, dit alors Ben Zouf, délivre-nous de ta présence ou de ton or, à ton choix. Et le malheureux Isaac dut se délester de son énorme ceinture, au milieu de lamentations et d'objurations dont on n'essayera même pas de donner une idée. Quant à Palmyra Rosette, ce fut une bien autre affaire. Le savant rageur prétendait ne pas quitter le noyau de sa comète. C'était l'arracher de son domaine. D'ailleurs, cette montgolfière, c'était un appareil absurdement imaginé. Le passage d'une atmosphère à l'autre ne pourrait s'opérer sans que le ballon flambât comme une simple feuille de papier. Il y avait moins de danger à rester sur Galia, et dans le cas où, par impossible, Galia ne ferait qu'effleurer la Terre, au moins Palmyra Rosette continuerait à graviter avec elle. Enfin, mille raisons accompagnées d'imprécations furibondes ou grotesques, telles que menace d'accaparer de pensum l'élève Servadac. Quoi qu'il en soit, le professeur fut introduit le second dans la nacelle, mais garrotté et maintenu par deux robustes matelots. Le capitaine Servadac, bien déterminé à ne point le laisser sur Galia, l'avait embarqué de cette façon un peu vive. Il avait fallu abandonner les deux chevaux et la chèvre de Nina. Ce fut un crève-cœur pour le capitaine, Ben Zouf et la petite fille, mais on ne pouvait les prendre. Seul de tous les animaux, le pigeon de Nina avait une place réservée. Qui sait d'ailleurs si ce pigeon ne servirait pas de messager entre les passagers de la nacelle et quelques points de la surface terrestre. Le comte Timachev et le lieutenant Prokop s'embarquèrent sur une invitation du capitaine. Celui-ci foulait encore le sol galien avec son fidèle Ben Zouf. « Allons, Ben Zouf, à ton tour, » dit-il. « Après vous, mon capitaine. Non, je dois rester le dernier à bord, comme un commandant qui est forcé d'abandonner son navire. Cependant, fais, te dis-je. »« Par obéissance, alors, » répondit Ben Zouf. Ben Zouf enjamba le bord de la nacelle. Le capitaine Servadac y prit place après lui. Les derniers liens furent alors coupés et la montgolfière s'éleva majestueusement dans l'atmosphère.